Moi, j'ai récupéré des barriques qui sont plus que centenaires. Tant qu'effectivement, on les a gardées sous liquide, on peut aller très très loin.
Sur le comptoir de Lisanne, c'est le podcast dans lequel on parle de la bière autour d'une bière. Chaque semaine, je rencontre un ou une invitée avec qui j'explore la bière dans tous ses styles, ses influences, son évolution, son histoire et sa culture. Je suis Lisanne Desroches, brand ambassadrice Ninkasi, et pour cette nouvelle série de podcasts consacrée aux ingrédients de la bière, je suis allée voir ceux qui les utilisent, manipulent, transforment, les brasseurs. Dans cet épisode, c'est Simon de la brasserie Ammonite qui m'a rendu visite à Lyon pour échanger sur le bois, cet élément fabuleux qui sert à apporter des notes boisées à la bière et, lorsqu'il est utilisé sous forme de barrique, à faire vieillir lentement nos nectars maltés et houblonnés. Bonjour Simon.
Salut Lisanne.
Merci de nous rejoindre. On est au Ninkasi Gerland et ce matin ensemble, on a visité la brasserie à Tarare.
Ouais.
Donc tu t'es déplacé pour nous rendre visite.
Ouais.
Pour parler d'un ingrédient spécial. Alors avant de commencer à parler de cet ingrédient, j'aimerais bien que tu racontes à nos auditeurs comment tu es tombé dans la bière.
Au départ, je suis plutôt issu du monde du vin. J'ai fait des études dans le vin. J'ai travaillé pour pas mal de domaines qui partagent un petit peu la même philosophie que ce que je développe aujourd'hui, qui est le fait d'être non-interventionniste, de travailler avec des produits les plus naturels possibles. Et beaucoup de ces vignerons-là buvaient des bières d'une brasserie qui est pour beaucoup mythique, qui s'appelle Cantillon, qui est en Belgique, à Bruxelles. Et je dégustais ça au moment des vendanges, je dégustais ça quand on faisait les travaux en verre à l'extérieur, c'était super désaltérant. Et quand le monde des micro-brasseries, localement, là où je suis en Bourgogne, a un peu explosé, je suis allé justement dans les brasseries et j'ai goûté des produits qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de goûter avec mes collègues vignerons. Ça m'a posé beaucoup de questions et je me suis dit, pourquoi pas essayer de réfléchir à importer certaines méthodes issues du monde du vin et de voir ce que ça peut donner. Donc avec un process qui n'avait ni à voir avec des bières plus classique entre guillemets, ni à voir avec le saint lambic belge quoi. Donc du coup, au départ, des petits essais dans ma cave, à remplir quelques barriques, à les stocker chez des collègues vignerons, et puis petit à petit, la chose a pris. Je me suis pris au jeu aussi d'essayer beaucoup de choses, toujours avec par contre la même recette, mais voilà, d'essayer des modes de vieillissement. Et puis la brasserie s'est créée comme ça au départ, les premières barriques en 2016. Et on a laissé vieillir le stock bien 2 ans avant de commercialiser la première.
Donc il y a un
bière.
Petit délai avant d'avoir les premières bières ammonites.
Oui, c'est ça. Au début, un peu frustrant parce que plus je goûtais, plus je me disais qu'il fallait du temps. Et puis l'envie aussi de sortir un produit qui était déjà à maturité. Donc je travaillais en parallèle justement dans les domaines, aussi en tant que conseil pour beaucoup de domaines qui se lançaient. Et du coup, j'ai pu me permettre de laisser vieillir les stocks avant de sortir la première bière.
Tu avais gardé un pied dans le vin pendant quelques
temps.
Je
l'ai toujours encore parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver des collègues. Et les mêmes collègues à qui j'ai donné quelques coups de main, c'est aujourd'hui ceux qui m'aident aussi beaucoup sur plein de cuvées particulières, notamment le travail avec les raisins et puis aussi sur la sélection de barriques. Où en fait aujourd'hui il y a une espèce de, j'essaye de développer ça de plus en plus, une espèce de petite famille autour de la brasserie, et je trouve ça vertueux de se donner des coups de main et de grandir tous ensemble quoi.
Et de sans être forcément dans la même filière, c'est intéressant aussi de voir que la bière et le vin sont capables de se rejoindre sur un même pied d'égalité.
C'est tout à fait ça, et en plus je trouve que de plus en plus les barrières petit à petit sautent par rapport à ça. Je parlais avec des collègues il y a 5 ans du monde du saké, du monde justement des kombucha, des lactofermentations, et il y en avait plein qui me disaient non mais ça c'est tellement perché que personne va s'intéresser à ça. Et aujourd'hui
ça a bien changé.
Ça a bien changé quoi. Le saké, ça arrive de plus en plus. Il y a des gens qui étaient là depuis le début, qui ont défendu Mordicus le produit, comme il y a eu des gens depuis le début début qui ont défendu les fermentations spontanées, notamment belges. Et du coup, au bout d'un moment, ça trouve son public et les gens se disent, ah, ça existait depuis autant de temps. Et voilà quoi. Donc petit à petit, les barrières s'effacent. Et je suis assez content justement d'être un peu ce pont-là. Il y a plein de collègues qui m'affublent de dire que je ne brasse pas des bières, que je vinifie des céréales. Et moi, des fois, je leur dis, bah, vous travaillez vos vins comme des cuisiniers, comme on pourrait travailler en brasserie, quoi. Donc c'est assez rigolo, quoi.
Alors tu disais justement qu'il y a les barrières qui s'effacent et des styles ou des produits comme le kombucha qui maintenant sont à la mode. Mmh. Il y a un autre type de bière qui est maintenant très à la mode entre guillemets, même si ça fait quand même longtemps que ça existe. Mmh. Ce sont les bières barriquées et ça va être le sujet de ce podcast. Alors plus précisément, on va parler d'un ingrédient spécial qui est le bois.
Oui.
Et l'utilisation du bois dans la bière. Et il y a vraiment deux grandes familles de bois, on va dire, d'utilisation du bois. Il y a d'un côté l'utilisation de copeaux et de l'autre l'utilisation de barriques. Et c'est deux, on va dire, deux styles complètement différents qui n'auront pas les mêmes résultats.
Oui.
À quel niveau on va distinguer les deux types de bières comme ça ?
Alors déjà sur le process va être différent. C'est-à-dire que quand on va travailler avec des copeaux, ça veut dire forcément, ou en tout cas souvent, qu'on va travailler sur des bières fermentées en cuve. Donc en tank inox, pour une certaine stabilité. Le gros intérêt du copeau, c'est justement le fait que l'on puisse travailler sans intervention ou risque, en tout cas, que des levures sauvages ou des bactéries viennent. La différence de résultat, elle est à plusieurs niveaux par rapport à un vieillissement en barrique. Souvent dans le vieillissement, moi j'aime plutôt parler de phase d'élevage. On peut faire des fermentations en tonneau, moi c'est ce que je fais à la brasserie, mais la majeure partie du temps on parle d'élevage, là où le copeau est plus travaillé comme une... Alors je dirais aromatisation, mais quand on dit aromatisation, ça fait pas beau, c'est pas ça en plus. Mais comme une touche supplémentaire.
Ça permet d'amener un goût boisé à certaines bières. Voilà.
C'est ça. Et donc du coup, généralement les copeaux, on va les mettre en fin de fermentation lors de la garde en cuve. L'intérêt, c'est que la surface d'exposition, le contact au bois, est plus important que sur une barrique.
Donc on vient infuser les copeaux dans la bière.
Et le gros intérêt aussi des copeaux, c'est qu'on peut aussi d'abord infuser les copeaux dans autre chose avant de les intégrer justement aux cuves de fermentation. Donc là, la créativité, elle est presque sans limite. On peut infuser des... Moi, j'ai goûté des choses fabuleuses infusées avec des choses classiques comme du bourbon jusqu'aux liqueurs de café, jusqu'à des infusions avec des sirops aussi. Le gros intérêt, c'est la surface d'exposition, le rapport entre le solide et le liquide, où du coup, le copeau, de par sa faible taille, va maximiser effectivement le contact avec le liquide et du coup on va aller entre guillemets plus vite et surtout on va avoir beaucoup plus d'exubérance, d'imprégnation de bois que sur un tonneau, puisque le tonneau, déjà la surface d'exposition avec le liquide n'est que la surface au contact du bois, là où le copeau est complètement immergé, même si on sait que le bois flotte. Mais il y a une dimension où on va plutôt travailler sur le temps avec un élevage en tonneau, là où on va plutôt travailler sur le contact avec un travail autour des copeaux. Donc après, on peut toujours, on a aussi de la créativité quand on fait juste de l'élevage entre guillemets en barrique, parce qu'on peut avoir des barriques de plein d'origines. Le gros intérêt effectivement aujourd'hui des bières qui sont barriquées, c'est que le champ des possibles avec une bière d'un seul style, en rentrant dans le monde du barriqué ou du bois, ben on multiplie encore, malgré le fait d'utiliser presque 15 styles, on multiplie encore le nombre de goûts et la palette aromatique qu'on peut donner, quoi.
Oui, c'est ce qu'on fait. Nous, en Incasi, on a nos bières qu'on va retrouver à la pression, par exemple. Et puis certaines qui sont assez spéciales ou qui ont des caractéristiques assez intéressantes, comme un peu d'alcool, ça permet de vieillir correctement en bois, ben, on va les mettre dans nos barriques de whisky et leur donner une seconde vie. Ça va être, par exemple, notre bière de Noël, ça va devenir la Double Barrel Age. Bon, c'est la même à la base, mais elle a passé peut-être 8-12 mois dans une barrique de whisky. Et c'est comme donner une deuxième vie à la bière, quoi.
Non, puis je trouve que c'est super intéressant, justement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je trouve qu'il est ultra pertinent de pouvoir fonctionner en cercle fermé, c'est-à-dire que une barrique qui va être utilisée qui est une barrique de vin qui n'était plus destinée à vinifier parce qu'elle n'apportait plus ce que l'on voulait au vin peut être réutilisée pour contenir du distillat. Ce même distillat qui, une fois qu'il a amené des choses, qu'il a récupéré des choses du bois, on sort ce distillat et on peut mettre une bière. Et là, moi, l'étape où j'en suis, c'est que j'ai des fûts de distillat dans lesquels j'ai mis des bières. Et les distillateurs veulent récupérer le fût ayant contenu la bière pour refaire une boucle avec le distillat.
Donc la vie d'un tonneau est quasiment infinie.
La vie d'un tonneau est quasiment illimitée. Parce que par expérience avec plein de collègues distillateurs ou de personnes qui élaborent des vins avec des vieillissements très très longs, moi j'ai récupéré des barriques qui sont plus que centenaires, des barriques de plus de 150 ans pour certaines, et tant qu'effectivement on les a gardées sous liquide,
mouillées, tout le temps,
c'est toujours important, on peut aller très très loin.
Justement, quel type de barrique, toi, tu utilises à la brasserie pour faire vieillir tes bières ?
Alors, le cœur du vieillissement, au départ, c'est des fûts de vin. Donc, généralement, des barriques qu'on appelle, nous, les pièces bourguignonnes, donc 228 litres. Des fûts qui sont très ventrus, c'est pas des fûts qui sont très allongés. On a, en général, c'est 50% de fûts de chardonnay et 50% de fûts de pinot noir, qui sont les deux gros cépages de la Bourgogne, avec quelques cépages satellites, comme la ligotée, par exemple. Ça, c'est vraiment le cœur du vieillissement. Après, se rajoutent de plus en plus des fûts de plus grande taille, qui vont aller du 350 litres jusqu'au 700 litres. Là, ça peut être des fûts qui ont contenu, par exemple, des mares de Bourgogne, donc s'il y a la distillation des mares de raisin. On a des fûts de fines, des fûts de prunes, des fûts, là, cette fois-ci, un petit peu plus étrangers, on peut avoir des fûts d'Arérès, on a des fûts de cidre ayant contenu du Calvados, ayant contenu du Porto avant. L'idée, c'est que l'hétérogénéité du parc de fûts, de l'ensemble de ces entités, crée la complexité au moment, justement, d'un assemblage ou éventuellement d'une sortie sur un multivieillissement d'une seule barrique. Donc voilà, et puis on a un foudre aussi de 28 hectos qui a contenu du Riesling pendant des dizaines d'années, que j'ai mis 3 ans à trouver, qui est une pépite incroyable, qui est un meuble. C'est un meuble extraordinaire avec une histoire de dingue. Et voilà, moi je suis plus que les origines, moi c'est les histoires qu'il y a à raconter derrière. Donc ça peut être un simple fût de vin, mais qui provient d'un domaine qui ne produit qu'une seule pièce par an, et il me fait confiance pour faire quelque chose. Donc voilà, un petit peu tous les horizons, mais la grosse base quand même, 80% des barriques, c'est des fûts de vin frais, de blanc et de rouge.
Quel est le temps de vieillissement, on va dire, minimum pour qu'une bière soit considérée comme barrel aged et qu'elle ait réussi à puiser toutes les qualités du bois?
Alors, sur des fûts seuls, comme disent les Écossais, les single casks dans le monde du whisky, là, le temps médian, en tout cas à la brasserie, ça va être à peu près 18 mois. Généralement, il n'y a pas de single cask qui sortent chez moi avant 18 mois, et je ne goûte aucune des bières avant minimum 1 an, pour que justement l'intégralité de la flore se soit stabilisée et qu'on dépasse le stade de la fermentation et qu'on bascule justement sur la concentration par l'élevage, puisqu'on ne fait pas d'ouillage à la brasserie. Donc après, qu'est-ce que c'est un barrel age? Quand on va travailler des fûts spiritueux, tout va très vite. Donc un finish en fûts spiritueux, déjà ne serait-ce que de 6 à 8 mois, c'est déjà, si le fût était frais, déjà très aromatique. Ce qu'on va pouvoir garder le plus longtemps généralement en élevage, ça va être principalement les fûts de vin, notamment les fûts de vin blanc.
Qui sont plus doux, plus lents à s'exprimer un petit peu.
Qui sont souvent déjà plus acides, parce que les vins blancs conservent une grande acidité par rapport au vin rouge. Et surtout aussi, effectivement, on n'a pas, sauf cas de macération, on n'a pas de blanc, de vin blanc qui contiennent des tanins. Donc, pareil, le marquage par les tanins des précédentes vinifications va accélérer ce vieillissement. Pour moi, les fûts que j'arrive à tenir souvent le plus longtemps sont des fûts de vin blanc. Et là, on peut aller très loin. Ça peut être 18, 24, 36 mois sans problème.
Alors, tu disais que tu goûtais pas de tes bières avant un an. Mmh. Est-ce que tu as eu des mauvaises surprises aussi au bout d'un an? C'est quand même long,
ah oui.
Un an.
Ouais, c'est long. Oui, bien sûr, on a toujours des surprises. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis le début de la brasserie. J'ai remarqué que, avec le temps, les fûts qui sont brassés en début et en fin de saison sont toujours plus à risque parce que la température commence à arriver ou n'a pas fini de baisser, et on a souvent plus d'exubérance, des fois des montées, ce qu'on appelle en volatile, qui vont peut-être possiblement donner ce qu'on appelle de l'acétique, qui est très intéressant gustativement sur plein d'aspects, mais qui peut effectivement à un moment basculer, et puis là on fait quelque chose qui est vraiment pas bon pour les gencives, mais, mais l'idée oui, on a des fois des surprises. Généralement, quand on a quelque chose d'assez exubérant au départ, c'est jamais très bon signe. Moi, je suis toujours un peu. Je préfère attendre que l'imprégnation soit longue, lente, et qu'il y ait une évolution lente. Quand ça va très vite et que ça développe énormément tout de suite, généralement, ça a du mal à tenir dans le temps. Mais généralement, un single casque, si c'est pas bon, ça part à l'égout. C'est triste, hein, mais...
de quoi briser bon. Un cœur.
Oui, c'est clair. C'est clair, surtout quand on a mis beaucoup de temps et d'investissement. Mais oui, après... Après, c'est pareil. L'idée, c'est de sortir un produit qui, même s'il laisse toute sa place à la nature pour s'exprimer, soit quand même techniquement abouti, quoi. Et ça veut pas dire technologique, mais ça veut dire que si on fait fi du goût pur, parce qu'il est subjectif et chacun a sa propre interprétation du goût, il faut que techniquement le produit ait une grande précision, une belle longueur, et qu'il puisse développer justement après derrière une aromatique qui soit étagée et pas simplement monolithique, quoi.
Alors, on a vu qu'on pouvait utiliser des copeaux, bien sûr des barriques. Est-ce qu'il y a une autre façon d'utiliser le bois d'une manière ou d'une autre dans la bière?
Alors, on peut aller très loin. C'est ce que je te disais en off. Moi, j'ai fait avec un ami brasseur qui est du côté de Toulouse. On a lancé une collaboration ensemble parce qu'on est tous les deux... On s'est bien retrouvé sur le côté un peu sorcier et on s'est dit allons jusqu'au bout du bois, de notre amour pour le bois. Et donc on a récupéré un Douglas, un tronc d'arbre de naissance de Douglas, qu'on a utilisé. On a creusé une rigole à l'intérieur de ce tronc et on a refroidi la bière en sortie de brassage à travers ce tronc d'arbre. Et là, encore une fois, on va intégrer du bois sur un temps relativement court, même si on a fait un refroidissement très long et très lent, mais on va au cœur de la... Les bois avaient encore de la sève, c'était extraordinaire. On a récupéré énormément de choses. Et après, on l'a mis en tonneau. Mais là, on peut aller jusque-là. On peut faire plein de choses. Je pense qu'on pourrait aussi, par exemple, utiliser, grâce à certains outils modernes de brassage, comme par exemple ce qu'on appelle un hop gun, c'est-à-dire une espèce de grosse fusée dans laquelle on met du houblon et où on fait comme une percolation de houblon sur les bières. On pourrait justement intégrer ça. Et puis, historiquement, il y a aussi un grand style qui s'appelle le gruit, dans lequel on utilise beaucoup de plantes et où on sait qu'on peut utiliser justement, par exemple, de la bruyère. On peut utiliser du bois sous
avec
des formes...
leur écorce, avec
exactement,
la branche, voilà,
exactement,
ouais.
On peut récupérer la flore aussi contenue sur le bois et il y a comme ça plein de choses. Je pense qu'on n'a pas fini d'explorer toutes les manières de pouvoir l'utiliser. Les teintures aussi sont une piste, il y a plein de choses.
C'est sans fin. Alors, c'est le temps de la dégustation. Alors, tu nous as ramené une de tes cuvées spéciales.
Oui. Alors du coup, pour parler justement un peu bois, élevage, là je vous ai ramené une cuvée qui s'appelle Constellation, qui est la première cuvée que je fais, donc premier millésime, donc c'est des bières 100% 3 ans, avec un vieillissement particulier où là on a au moins trois barriques qui sont intervenues dans l'assemblage. Donc c'est la seule cuvée que j'assemble. Donc à la base, on avait deux fûts de Pinot Noir, un fût de Chardonnay et un fût d'Aligoté, que j'ai transféré dans trois fûts de spiritueux, dont une fine de Bourgogne, qui est l'équivalent d'un cognac. C'est la distillation des lits fines du vin, qui est très traditionnelle chez nous. Un fût de Ratafia. Le Ratafia, c'est un vin muté. Donc on prend du jus de raisin frais, et on ajoute de l'alcool pour pas que ça fermente. On tue les levures grâce à l'alcool et on fait des vieillissements avec. Ça ressemble un petit peu, pour ceux qui connaissent, au floc de Gascogne, par exemple, au Pinot des Charentes. Et un dernier fût, qui est un fût de Rérès. Et donc là, on a quatre fûts à la base, plus un vieillissement dans trois autres fûts. Et puis ensuite, j'ai marié le tout dans un fût de 350 litres qui a servi à d'autres cuvées. Donc c'était l'idée, le tour de force, c'était de... J'avais envie de retrouver l'amour de l'assemblage, parce que une Solera, c'est un assemblage, mais c'est un peu frustrant parce que tout est en place et des fois on se dit, ah, j'aurais bien voulu vu cet individu là avec un autre, etc. Et puis 2018, c'est une année importante pour moi parce que c'est effectivement les premières commercialisations des bières, mais c'est surtout la naissance de mon fils. Et Constellation, fallait bien commencer par une Constellation. Donc on a commencé par la Constellation du Cancer, puisque mon fils est né en juillet. Voilà. Et l'idée, voilà, c'est une cuvée hommage. Je mets beaucoup d'affect un peu dans mes bières.
Lui as gardé des bouteilles pour plus tard.
Oh, je vais même garder des magnums parce que moi, je suis un amoureux des formats généreux et partageux. Donc oui, voilà, Constellation 2018, un vieillissement sur 4 fûts de vin plus 3 fûts de spiritueux, et puis après un assemblage final, une mise en bouteille. Et c'est la cuvée vraiment qui elle sort qu'une fois par an au printemps, et donc l'année prochaine ce sera 2019 et ainsi de suite.
Voilà. Et ben j'en salive déjà, on va aller ouvrir cette bouteille et la goûter ensemble.
Super. Oui, donc en fait, Constellation 2018, donc c'est comme je te le disais, une espèce d'un peu de synthèse des fûts qu'il y a à la brasserie et du plaisir que c'est d'assembler. Donc là, 100% 3 ans.
C'est quoi à la base, donc la bière que tu fais à la base ?
La bière à la base que je fais, donc c'est déjà monocéréales. Mm-hmm. Donc là, aujourd'hui, on utilise 100% du malt pale, donc il y a un malt... Qui n'est pas aussi blond que du malt pils, mais qui est un malt entre guillemets de base. Ensuite, on va faire une infusion à 62 degrés, où l'idée c'est de n'avoir qu'un palier de saccharification, donc ne créer que des sucres simples. Et après, derrière, au moment où on va rincer les céréales, c'est à ce moment-là où j'ajoute les houblons sauvages. Et derrière, après, on rince, on met en tonneau, et puis après la magie opère. Donc il y a pas eu d'ébullition.
Tout ce que t'as décrit, le vieillissement.
C'est ça. Il y a pas eu d'ébullition. Il y a pas eu de. On passe jamais le palier de la pasteurisation. Et après derrière, c'est tout le travail d'élevage qui va donner son identité. Donc en fait, quand les gens viennent voient plein de bouteilles différentes, en fait, il y a qu'une seule bière et c'est juste.
Donc ta base de toutes tes bières, c'est toujours la même chose.
Toujours la même chose. Je fais qu'une seule recette.
Ton travail est vraiment sur le vieillissement.
C'est ça. C'est pour ça que aujourd'hui, le cœur de mon métier, effectivement, c'est presque pas de brasser, puisque la recette est connue de tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai plein de gens qui me disent j'ai fait une bière méthode ammonite. mais c'est plutôt effectivement la sélection des tonneaux, le temps d'élevage, le lieu où c'est élevé et le moment où on décide d'embouteiller, d'assembler avec quelque chose qui fait l'identité des bières. Quoi.
Et c'est marrant parce que ce matin, on a goûté quelques autres de tes bouteilles et il n'y en a pas une qui se ressemble. Donc c'est drôle de penser qu'à la base, c'est le même jus, mais qu'à travers un travail presque que tu laisses à un autre, un tiers, et bien ça change. Là, on a une belle couleur... un peu pêche rosée, on va dire un petit peu.
Ouais.
On pourrait croire qu'il y a un fruit qui a été ajouté dedans, alors que
bah, rien
pas
du tout.
Alors comme tu disais, on a bien le bois là quand même. On sent qu'il y a eu un vieillissement. On l'a bien au nez. Donc, 3 ans en tout de vieillissement, quand même, c'est assez conséquent.
Oui, c'est ça, parce que j'avais... Il y a une cuvée, moi, que j'adore. Il y a une cuvée, moi, qui est une cuvée de la brasserie Cantillon, que j'adore, qui est la cuvée Brossella, qui est un 100% 3 ans, qui est pas forcément très connu des amateurs, qui est une cuvée qui produisent régulièrement, qui est pas une cuvée entre guillemets spéciale. Et je trouve que quand on arrive au bout de 3 ans, si on a réussi à conserver cette tension, cette fraîcheur, derrière, on a tellement de choses qui se développent que j'avais à cœur de proposer un 100% 3 ans.
Alors c'est chouette, on a plein de niveaux de dégustation, on a un côté très frais, l'acidité qui ressort, mais en même temps c'est gras, ça se répand sur tout le palais, les gencives, il y en a de partout. Et puis un petit peu après, moi je trouve qu'on a une légère, mais très légère, et dans le bon sens du terme, une petite astringence du bois qui vient, qui assèche un petit peu la bouche.
Oui.
Donc c'est... Je dirais qu'il n'y a même pas que 3 temps de dégustation, parce que j'attends que ça continue derrière. Mais et c'est la première gorgée seulement. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a plein de niveaux qui se détaillent. Et on sent le temps derrière, le travail.
Ça, c'est pour moi le critère le plus important. Pour moi, une bière, ça doit... En tout cas, mon idée à la brasserie, c'est de faire des bières qui aient de la longueur. Ce qui fait la complexité aujourd'hui, prenons encore un parallèle avec le vin. Le vin, on a une unité de mesure qui s'appelle les caudalies, l'unité de mesure de la longueur d'un vin. Et tous les vins les plus complexes ont toujours eu beaucoup de longueur. Et si possible aussi, beaucoup d'évolution pendant ce temps avant que la majeure partie des arômes disparaissent. Et du coup, cette cuvée-là, c'est l'idée d'avoir le maximum de longueur, la plus grosse dynamique au niveau du goût. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir des attaques qui soient très verticales, un côté qui est très, très en panache, avec des fois des sensations de fruité, du gras, quelque chose qui soit effectivement un peu umami, un peu enveloppant. Et que derrière, après, la boisson, la bière se tende comme ça, s'étire, comme si on tirait sur un élastique, comme ça, pour qu'on ait justement cette longueur et aussi cette espèce de marqueur un peu qui est un peu dans toutes les bières à la brasserie, qui est un peu cette espèce de sensation de salinité, de sève, de séveux comme ça, parce que derrière c'est appétant, ça donne envie d'y revenir et du coup ça stimule aussi l'envie de manger, quoi. Ça va pouvoir aller percuter plein de plats et à la fois même quand tu vas commencer par ça, même à l'apéritif, tu vois, ça va ouvrir énormément et ouais, c'est bien quand le glouglou pousse au Miam Miam, c'est important.
Complètement. C'est important. Bon, mais merci beaucoup Simon de nous avoir fait découvrir tes produits,
rien.
De nous avoir appris à ralentir, à prendre le temps et à laisser le temps au temps, justement de faire son travail, surtout avec le bois. J'espère que ça a donné envie à tous nos auditeurs de découvrir un petit peu plus tes bières et puis toutes les barrel age en général qui sont très variées. Il y a des styles qui sont pas du tout sur l'acidité, qui vont être sur des bières, des imperial stout, comme on a goûté ce matin ensemble,
ou
qui vont
café.
Être très café,
très
voilà.
Café.
Donc c'est vraiment très varié. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur toutes vos bonnes barrel age. On est toujours preneur de bons crus.
C'est clair.
Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
Salut.
C'était Sur le comptoir de Lisanne, un podcast Ninkasi Stories. Dans le prochain épisode, nous terminons notre série sur les ingrédients en explorant l'utilisation ancestrale d'épices et de plantes dans la bière. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et de partager cet épisode à un ou une amie que cela intéresserait. Je compte sur vous. À la prochaine.